3. Une conquête difficile. Bengali pourtant avait eu ce jour-là même une déception qui aurait pu influer sur son humeur naturellement joyeuse. L'acceptation de son bras et de son parapluie par la gentille Georgette lui avait fait concevoir des espérances si longues d'une réalisation immédiate, du moins à délai plus ou moins bref. Sa conversation avait amusé la jeune fille. Il vit qu'elle aimait à rire et il se savait en fond pour la mettre en gaieté. Aujourd'hui, dans sa chambrette où elle lui permettrait d'aller se reposer, il soutiendrait son rôle de jeune homme sentimental, rêvant d'une épouse adorée, de bébés jolis et blonds comme leur mère. À la deuxième visite, oh, car elle consentirait sans nul doute à ce qu'il allât s'informer si elle n'aurait pas attrapé un refroidissement sous la porte cochère, à cette deuxième visite, il s'enhardirait à prendre quelques petites libertés, et si elle se fâchait, il connaît le proverbe sur le rire qui désarme la colère. Le voyage, d'ailleurs, n'avait été qu'une succession d'incidents et de rencontres qui avaient entretenu la belle humeur du jeune couple. Tout était matière à réflexion cocasse, pour Bengali particulièrement, les grincheux mouillés jusqu'aux os, dont sa gaieté, provoquée par l'état lamentable des infortunés, augmentait encore l'irritation. Quoique tout à ses espérances de conquête, le joyeux garçon ne pouvait résister à son admiration des jolies jambes féminines, et les exclamations que lui arrachaient les beaux mollets lui avaient valu des plaisanteries de la part de sa compagne. Il protestait, bien entendu, quant aux réflexions enjouées de Georgette, qu'il qualifiait de simple taquinerie, affirmant qu'il n'était occupé que d'elle seule, que du soin de l'abriter, de la préserver des éclaboussures. « Ah, voici où je vais, » dit-elle, en désignant un magasin, et elle quitta le bras de son cavalier, le remercia du service qu'il lui avait rendu, et lui dit adieu. « Adieu ? » répondit-il en pas encore. « Votre éventail livré, votre compte réglé, il vous faudra retourner chez vous, et l'averse continue. Bon, »« On me prêtera un parapluie au magasin. »« Un parapluie ? Mais si quelqu'un de la maison est sorti avec ? Oh, y en eut-il plusieurs, qu'ils peuvent n'être pas disponibles ? Permettez-moi de vous attendre, je tiens à vous accompagner jusqu'à votre porte. » Georgette refusa. « J'attendrai que la pluie ait cessé, » dit-elle. « Cessé !» s'écria Bengali. « Mais voyez donc comme le ciel est gris. Le temps est tout à fait gâté. Regardez sur les toits. Toutes les girouettes sont à l'eau. Oh, nous en avons peut-être pour plusieurs jours. » La jeune fille résista, renouvela ses remerciements et entra dans le magasin en envoyant à Bengali un dernier adieu, exprimé par un gracieux mouvement de tête et un sourire. Notre Don Juan de la pluie n'était pas homme à abandonner une idée fixe pour si peu. Il entra dans une allée faisant face au magasin et attendit. Il n'attendit pas longtemps, une éclaircie s'était subitement produite. Georgette en profita, reparut et hâta le pas sans avoir remarqué l'obligeant jeune homme qu'elle croyait bien loin. Elle se retourna brusquement à sa voix. « Je savais bien, lui dit-il, qu'on n'aurait pas de parapluie à vous prêter, et j'avais raison d'attendre votre sortie. »« Mais monsieur, répondit Georgette, la pluie a cessé. »« Cessé, mademoiselle, pour 2 minutes et encore. »« Vous voyez donc pas comme les nuages courent. » « Tenez, j'ai reçu des gouttes, ça va recommencer, ça recommence. » Et il ouvrit son parapluie. « Votre chapeau serait perdu, dit-il, si je ne m'étais pas trouvé là. » Une nouvelle averse, en effet, venait d'éclater. Bengali offrit son bras, la jeune fille l'accepta de nouveau, en riant de la persévérance obstinée de son compagnon de voyage, et tous deux recommencèrent leur marche à travers les rues, égayé par les saillies du porteur de parapluie. Ah, me voici à ma porte, dit enfin Georgette en quittant le bras de son cavalier. Cette fois, monsieur, je vous dis définitivement adieu et je vous renouvelle mes remerciements. Oh, vous me permettrez bien, au moins, mademoiselle, d'aller me reposer quelques instants chez vous. Ici, la jeune fille devint sérieuse et repoussa net la demande de Bengali. Ben, je suis brisé, dit-il, cette longue course sur les pointes. Car je n'ai pas cessé de marcher sur les pointes, comme les danseuses de l'opéra. Mais elles y ont été dressées toutes jeunes. Et cependant, elles vous diront que c'est l'exercice le plus fatigant. Jugez ce que doit être pour moi, qui n'ai pas été élevé à cela. Je vous en prie, permettez-moi. Mais non, monsieur. Je n'ai pas envie de me faire remarquer par mon concierge et mes voisins. Je ne reçois jamais personne que des amis et ma marraine, Madame Maroquin, qui doit venir me voir précisément aujourd'hui, à moins que son mari, qui n'est pas la grâce même. Maroquin! S'écria le jeune homme, une espèce de porc-épic. Oui, dit Georgette, surprise, vous le connaissez? J'ai fait sa connaissance sous la porte cochère, où j'ai eu le plaisir infiniment plus grand de faire la vôtre. J'ai failli avoir un duel avec lui. Comment un duel? Oh, toute une histoire qui serait trop longue à vous raconter. Oh, c'est très amusant. Montons chez vous. Et Georgette ne laissa pas achever. Adieu, monsieur, dit-elle. Et elle disparut dans l'allée de sa maison, laissant l'amoureux tout déconcerté. C'est une vertu, se dit-il. Puis, après réflexion, une vertu. Oh, je dis ça parce que. Mais ce n'est pas une raison. Tirant alors son carnet, il lut le numéro de la maison, l'inscrivit ainsi que le nom de la rue, et s'éloigna en murmurant: Pour la vertu! Ce n'est qu'un mot, indiqua-t-on. Il faudra voir. Oh, je m'y suis mal pris. Le lendemain, il alla guetter Georgette, l'aborda sous prétexte de s'informer si son séjour sous la porte cochère, après avoir reçu l'averse, ne lui avait pas causé un refroidissement et une indisposition. Puis, s'extasiant sur sa fraîcheur et sa belle mine de santé, il reconnut en riant l'inutilité de sa question. Il revint alors sur sa propre justification. Vous m'avez bien mal jugé, lui dit-il. Et malgré la défense de la jeune fille, il l'accompagna jusqu'à sa porte en la faisant rire par ses propos. Cette fois encore, elle opposa un refus formel à sa demande de monter chez elle. Plusieurs jours de suite, il fit les mêmes et vaines tentatives, et Georgette le menaça même de le signaler à des gardiens de la paix s'il persistait à l'accoster et à la suivre. Le jour suivant, elle le trouva encore sur son chemin. Elle tourna la tête et passa sur le trottoir opposé. Il exécuta la même évolution et aborda la jeune fille. Oh, monsieur, fit-elle avec un mouvement d'humeur, je vous ai prié de me laisser tranquille. Un seul mot, mademoiselle, et je vous jure de vous obéir, si, après m'avoir entendu, vous m'ordonnez encore de vous fuir. Quel mot, monsieur? Celui-ci. Je crois avoir eu le malheur de jouer avec vous à ce jeu appelé les propos discordants. Je ne comprends pas, monsieur. Mais c'est précisément cela, mademoiselle. Vous ne m'avez jamais compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué. Je vous aime d'un amour honnête. Que dis-je? Je vous aime, je vous adore. Je ne pense qu'à vous jour et nuit. Mais c'est pour le bon motif. Dès le premier jour que j'ai eu le bonheur de vous rencontrer, le jour où cette bienheureuse averse m'a permis de causer longuement avec vous, ne vous ai-je pas dit que vous me jugiez mal, que mes apparences vous donnaient de moi une opinion fausse, que mes voeux étaient de devenir l'époux fortuné d'une petite femme jolie comme vous, d'avoir des chérubins blonds et jolis comme leur mère. Voilà ce que je vous ai dit et ce que je pensais. Voilà ce que je vous répète avec encore plus d'ardeur et de conviction que le premier jour. Car maintenant je vous connais, je sais que vous êtes une honnête jeune fille. L'épouse que je cherche, ou plutôt que je ne cherche plus, puisque je l'ai trouvée en vous. Georgette, devenue grave, lui répondit « En effet, monsieur, je n'avais pas compris, et il m'était difficile de voir dans les discours plaisants que vous me teniez la pensée que vous venez de m'exprimer nettement. » Bengali voulut protester de sa sincérité. Elle l'interrompit. « Jusqu'ici, dit-elle, je ne vous avais pas pris au sérieux. » « Et aujourd'hui ?» s'écria le jeune homme. Ben, « Aujourd'hui, monsieur, vous voyez que je ne ris pas de vos paroles. Alors vous me permettez d'aller vous rendre mes visites ?»« Non, monsieur. »« Mais des fiancés ?»« Ah, avant de se fiancer, il faut se connaître mieux que par quelques rencontres dans la rue et quelques paroles échangées. » Ces rencontres et ces paroles m'ont montré, oh, bien à tort, je veux le croire, le coureur d'aventure. Oh, mademoiselle, n'ai-je pas fait mes réserves ? Dit Georgette en souriant. Bengali voulut parler. Laissez-moi achever, dit-elle. Et elle poursuivit. Quand nous serons fiancés, c'est que nous connaîtrons bien nos caractères, alors. Bengali l'interrompit. « Mais, fiancé, on l'est quand on s'est promis de s'épouser, et quant à moi, je vous fais cette promesse. »« Moi, répondit Georgette, j'attendrai pour vous faire la mienne. »« Mais qu'attendrez-vous? Vous êtes orpheline, libre. »« J'attendrai que la demande de ma main ait été adressée à ma marraine qui me tient lieu de famille. » « Cette demande, vous la lui ferez adresser par votre seule parente, cette tante-là dont vous m'avez parlé. Après quoi, on me consultera, et alors seulement, j'accepterai peut-être vos visites en présence de ma marraine. »« Mais, oh, dit Bengali, dérouté, faire demander votre main sans savoir si vous m'aimez. » À ce moment, Georgette eut un mouvement d'effroi. « Oh, monsieur Maroquin !» s'écria-t-elle. Et elle entra précipitamment dans sa maison. Bengali se retourna, aperçut en effet Maroquin qui s'était arrêté à la vue du jeune couple et s'éloigna après la disparition de la jeune fille. IV. Pistache. Le portrait de Pistache n'avançait guère, ce dont se réjouissait l'aspirant pharmacien à qui les absences de son artiste procuraient de longues causeries avec mesdames Jujube, mère et fille. La première, craignant toujours qu'il ne se laissât des inexactitudes réitérées de son mari et qu'il ne finît par laisser pour compte le portrait commencé, se confondait en excuses, en regrets, en impatience. « Oh, madame Jujubes, disait alors Pistache, avec un geste de protestation, je vous en prie, ne parlez pas de cela, vrai, vous me feriez de la peine. » Et si Athalie insistait dans le sens de sa mère, « Mais au contraire, mademoiselle, répliquait-il, j'ai tant de plaisir à attendre dans votre société, que ça me donne une physionomie que M. Jujubes attrape tout de suite. Dans les premiers temps, il me disait toujours « Souriez, souriez !» À présent, oh bien, il n'a pas besoin de me le demander. Je pense simplement à nos charmants entretiens, et ça suffit pour que je garde ce sourire gracieux que M. Jujubes a si bien attrapé. Aussi, il me dit toujours « C'est extraordinaire !» Comme votre physionomie reste aimable, je n'ai jamais eu un modèle pareil à vous. Et les deux dames de s'extasier sur la gracieuseté, la galanterie, le caractère charmant de notre amoureux jeune homme. Amoureux, oh, c'est ce qu'elles ignoraient encore, car depuis un mois que le futur pharmacien venait tous les jours, il n'avait pas osé faire connaître ses sentiments. Et cependant, il ne manquait pas, chaque samedi, de venir prendre le thé de la porte chinoise aux petites réceptions de la famille Jujube, et même, on l'avait présenté à des dames qui lui avaient envoyé des invitations pour leur soirée. Il avait polqué et valsé avec Athalie, danse chères aux amants à qui elles permettent d'enlacer la taille de l'objet adoré et de le presser sur leur cœur. Ces tendres manifestations, permises tant qu'elles restent silencieuses et peuvent être attribuées à la vigueur du bras du cavalier et à l'entraînement du rythme musical, ne prennent leur véritable signification que s'il y a des paroles sur la musique. Et chacun sait la difficulté de la conversation entre un cavalier inexpérimenté et sa danseuse. Quand le premier a parlé de la chaleur, du mouvement trop vif ou trop lent des instruments, du talent ou de l'insuffisance du pianiste, si l'on danse au piano, quand il a demandé à sa danseuse quelle est-elle danse qu'il lui désigne, qu'il a fait remarquer en riant tel vieux monsieur qui a un air ridicule, tous les sujets à causerie sont à peu près épuisés pour lui et ne lui reste plus qu'à reparler de la chaleur. Il n'y a que deux genres de couples dont la conversation est inépuisable pendant toute la durée de la danse. Les gens d'esprit et les imbéciles, surtout ces derniers, les âneries étant bien plus abondantes que les observations fines et les saillies spirituelles. Voilà pourquoi, chez Pistache et Athalie, les langues allaient autant que les pieds. L'aspirant pharmacien parlait remèdes, expliquait à Athalie la cocaïne, l'antipyrine et leurs effets sur l'organisme humain. Athalie lui demandait la différence qu'il y a entre le thé des soirées et le thé chambard. Pistache lui répondait que le premier constipe tandis que l'autre relâche, sans purger à proprement parler. Et il arrivait tout naturellement à causer de son futur établissement une excellente maison. Malgré les spécialités sur lesquelles on gagne peu, mais qu'on est forcé de tenir pour ne pas laisser aller les clients chez les confrères, où ils les trouveraient et à qui ils pourraient conserver leur clientèle. Il ajoutait qu'il attendait son concours au diplôme de pharmacie de première classe et l'obtention de ce diplôme pour entrer en possession de l'officine qu'il était disposé à acheter. Ici, l'allusion à ses désirs arrivait aisément. Il ne lui manquerait plus qu'une jolie petite femme pour tenir la caisse. Cette petite femme, il la cherchait. Il l'installerait, très coquettement habillée, au comptoir, près d'un globe d'eau minérale rose dont le reflet illuminerait les joues de la jolie caissière. Il devenait, on le voit, tout à fait poétique. Il avait même ajouté, après un silence et des regards éloquents, une jolie petite femme, n'osant pas dire comme vous, il avait dit dans votre genre. Et jusqu'à la fin de la soirée et toute la nuit, Athalie se demanda si c'était une allusion à son adresse. Elle fit part à sa mère de ses incertitudes. Et Madame Jujube n'hésita pas à lui affirmer que l'allusion était claire et trahissait l'amour de Pistache. Mais devait-on encourager le soupirant à se déclarer nettement? Il fallait d'abord savoir s'il conviendrait à Athalie pour mari, et sa mère l'interrogea à ce sujet. Il me convient, oui, mais les autres aussi me convenaient. C'est moi qui ne leur ai pas convenu. Bon, des coureurs de date, pas autre chose. S'ils avaient été réellement amoureux, comme paraît l'être Monsieur Pistache. Bon, il a l'air très amoureux, mais il tient peut-être aussi à la date. Je le ferai causer à ce sujet, sur ses idées en général, et avant de le faire s'expliquer sur ses sentiments pour toi. C'est ça, maman. Et puis il faudra savoir aussi, avant de le faire parler, si papa voudrait. Hein, si papa consentirait, toute l'affaire était là. Parle-lui, oh maman, dit Athalie. Oh non, lui en parler nettement, non, répondit la mère. Mais en causant avec lui, je mettrai la conversation sur le chapitre du mariage. Alors, je prononcerai d'un air indifférent le nom de Monsieur Pistache. Selon ce que dira ton père, je verrai si je dois aborder la question ou attendre et le préparer peu à peu à l'idée de cette alliance. La bonne entra. Oh, c'est Mademoiselle Georgette, dit-elle, qui demande si ces dames peuvent la recevoir. Au nom de son amie, Athalie, sans attendre la réponse de sa mère, s'était élancée vers la porte. Mais entrez donc, cria-t-elle avec effusion. Est-ce que vous avez besoin de permission? Et embrassant la jeune fille, vous êtes toujours la bienvenue ici. Oh, que je suis contente de vous voir. Cher ami, répondit Georgette en lui sautant au cou. Nous avons parlé de vous l'autre jour à propos de monsieur Maroquin que mon mari avait rencontré, dit madame Jujube en embrassant à son tour Georgette. Oh, monsieur Maroquin me l'a dit, madame. Il m'a même répété ce que M. Jujubes lui avait dit des sentiments de cette chère Athalie pour moi. Je l'ai même pour elle, je vous assure. Madame Jujube, continua-t-il, paraît que vous avez beaucoup d'ouvrages. Oui, beaucoup, madame, grâce aux excellentes leçons de Monsieur Jujubes. Oh, vous lui devez une belle chandelle, dit l'épouse de l'artiste, qui ne manquait jamais l'occasion de faire valoir l'importance toute particulière des obligations qu'on devait à elle ou aux siens. Oui, je lui suis très reconnaissante, oui, madame. Ah, étonnez, je l'entends qui rentre. Je vais lui dire que vous êtes là. Il sera enchanté de vous voir. Madame Jujube sortit, et les deux jeunes filles restaient seules. Athalie fit asseoir Georgette près d'elle et lui prit les mains. Oh, y a-t-il un temps que nous n'avons bavardé, dit-elle. Nous devons avoir un tas de choses à nous dire. Bon, moi, pas grand-chose. Ma vie est si uniforme. Mes sorties pour mon travail, une visite par semaine à ma marraine. Sauf elle, oh, je ne vois personne. C'est plutôt à moi à vous demander du nouveau, à vous qui voyez tant de monde. Ça c'est vrai. Eh, du beau monde. Ma chère, nous ne connaissons que des gens qui ont 20, 30, 40 000 livres de rente. De bonnes connaissances, ça. Et tous sont nos amis. Oh, ils vous trouveront un mari. Un mari, oh, mais que je vous dise donc, ma chère, j'ai un soupirant. Bah, contez-moi donc cela. Et Athalie, se rapprochant de son amie, lui conta ce que nous savons relativement à Pistache. De tout ce que vous me dites de ce jeune homme, je comprends qu'il doit vous rendre très heureuse. Moi, je le crois, il a l'air si bon. Seulement, conviendra-t-il à papa? Voilà. Pourquoi ne lui conviendrait-il pas? Il a une situation très convenable. Mais certainement, mais papa, c'est des idées. Enfin, je vous tiendrai au courant. Ah, j'y compte bien. Je vous le promets. J'ai déjà pensé au cadeau de noces que je vous ferai. À moi, un cadeau. Je veux vous peindre votre éventail de mariée. Oh, cher ami, que c'est gentil à vous. Vous demanderez à votre père la composition du sujet. Oh, c'est ça, oh, quelle bonne idée. Mais, et vous, est-ce que vous n'avez pas aussi un amoureux? À cette question, Georgette devint sérieuse. Moi, non. Oh, j'en ai eu un, Georgette. Et alors, en raconta, elle allait poursuivre de Bengali. Est-il gentil? Oh, très gentil, amusant au possible. Il me disait des choses si drôles et qui me faisaient tant rire que je ne pouvais pas me fâcher. Mais vous ne riez pas du tout en me racontant ça. Est-ce que ça n'a pas duré? Non, répondit Georgette. Et elle resta pensive. Qu'avez-vous donc? Demanda Athalie. Ma question paraît vous avoir attristée. Georgette, alors, lui rapporta la scène dans laquelle Bengali lui avait déclaré la pureté de ses intentions. Le conseil qu'elle lui avait donné de les faire connaître à monsieur et à madame Marocain, conseil dont il n'avait pas tenu compte. La jeune fille soupira et se leva. Adieu, dit-elle. Comment adieu? Fit Nathalie. Vous n'attendez pas mon père? Maman l'a prévenu, il va venir. Je vais aller le chercher. Tenez, le voici. Pas un mot de tout cela, dit Georgette. Bon, soyez tranquille, c'est entre nous. Jujube fit à son ancien élève l'accueil affectueusement protecteur qu'il réservait à ceux qu'il considérait comme ses inférieurs, et la jeune fille, prétextant l'impossibilité de prolonger sa visite, se retira après avoir fait à Athalie la promesse de revenir un jour où elle serait moins pressée. Athalie resta rêveuse. C'était l'heure de la pose de pistache et, par extraordinaire, l'artiste était exact. Eh bien, à quoi penses-tu? Demanda-t-il à sa fille. Va à ton piano. Pauvre Georgette, se dit Athalie en sortant, bien sûr, elle me cache un chagrin. Je viens, dit aussitôt Jujube avec un sourire dédaigneux, de rencontrer le sieur Quatre-Puces, ce savant de 4 sous. Ah oui, ce méchant professeur de je ne sais quoi, ajouta madame Jujube. Oui, continua Jujube, ce monsieur à qui il faudrait des dots princières. J'ai faim de ne pas le voir, mais il est venu à moi, la main tendue, que je n'ai pas prise. Je l'ai salué, m'excusant de ne pouvoir m'arrêter, et je me suis éloigné, le laissant tout déconcerté, regarder à l'aise un militaire qui s'était arrêté devant moi, la main à son képi. Monsieur Quatre-Puces a dû voir ce que je suis, et si j'ai besoin de doter ma fille pour lui trouver un mari. Madame Jujube saisit l'occasion. Bon, nous en trouverons tant que nous en voudrons des gendres, dit-elle, et qui se croiraient suffisamment honorés de t'avoir comme beau-père, même sans dot. Parbleu, approuva Jujube. Ah, si nous voulions, nous n'avons pas à chercher bien loin. J'en connais un qui. La bonne annonça Pistache et il entra. Il présenta ses devoirs à monsieur et madame Jujube, demanda des nouvelles de mademoiselle et fit de sa bien-aimée un tableau enthousiaste. Si vous voulez passer à l'atelier, dit le peintre, je vous suis. Arrangez votre cravate et vos cheveux en m'attendant. Pistache passa dans l'atelier. Mais de qui voudrais-tu parler? Demanda Jujube. Mais de ton modèle qui. L'apothicaire! interrompt brusquement le vaniteux personnage. Il t'a parlé? Non, de rien du tout, répondit vivement sa compagne, intimidée par le ton de cette question. Oh non, il n'a pas dit un seul mot. Eh bien alors, je voulais dire seulement que si on lui offrait... Oui, mais on ne lui offre pas. Sur ce, le peintre la rejoint dans son modèle, et Madame Jujube alla raconter à sa fille ce qui s'était passé. Encore un de manqué, dit Athalie avec humeur. Manqué, manqué, mais qu'est-ce qu'il y a de manqué? Ton père n'a opposé aucun refus. Ce jeune homme ne nous a rien dit en définitive. Positivement, non, non, mais j'ai bien compris, et toi-même. Oui, je crois, mais enfin, s'il ne t'avait adressé que de simples galanteries, si tu t'étais méprise, qu'il parle, qu'il s'explique. Qu'il s'explique, il est si timide. Bon, je le ferai bien parler. Du train dont va ton père, le portrait durera longtemps, et je trouverai bien l'occasion de dénouer la langue à ton amoureux transi. La séance terminée, Jujube sortit pour aller montrer sa croix au salon de peinture où il avait exposé son propre portrait, laissant le tendre pharmacien exprimer à Madame Jujube son admiration pour le grand artiste. Nathalie était à son piano et Madame Jujube, seule avec Pistache, entreprit immédiatement de le faire déclarer ses intentions. Sa diplomatie n'eut pas à se heurter à de grandes difficultés. Il lui suffit de parler au timide jeune homme de son prochain établissement, de l'impossibilité où il se trouverait bientôt de rester garçon, ajoutant que l'éternel obstacle pour les jeunes gens à marier, c'était leur ambition des grosses dots. « Oh, pas moi, madame, pas moi. Un joli petit ménage où l'on s'aime bien, c'est tout ce que je demande et pas un sou avec. » « Vous avez bien raison, dit madame Jujube. L'argent ne fait pas le bonheur. Oh non, madame, être heureux, voilà le vrai bonheur. Ça a toujours été mon principe. Et c'est le bon, c'est la sagesse même. » Si les jeunes gens savaient à quoi ils s'exposent en voulant des dots, s'ils connaissaient les exigences, les goûts dépensiers de la femme qui leur a apporté une dot, 100 000 francs par exemple, ça fait 4 000 francs de rente, mettons 4 500, et elles en dépensent 7 ou 8 000 en bijoux et en toilettes. Oh oui, c'est bien vrai, madame. Ce que je voudrais, par exemple, c'est une famille où je serais fier d'entrer. Oui, dont le père serait célèbre. Oui, c'est ça, un artiste, un artiste, avoir un beau père artiste et une femme artiste aussi. Oh oui, madame. Eh bien, avez-vous dans vos connaissances... Oh, certainement que j'ai ça, s'écria Pistache. « Et connaissez-vous assez ses parents pour espérer ?»« Oh, beaucoup, madame, beaucoup. »« Eh bien alors, c'est que peut-être aussi veulent-ils beaucoup de fortune. »« Mais avec un bon établissement, on peut faire fortune. »« Je sais bien, quant à moi, que je n'aurai jamais pour ma fille de ces exigences d'argent. »« Oh, madame, que vous me faites plaisir. » Et après quelques hésitations bientôt détruites par Madame Jujube, Pistache finit par ouvrir son cœur et demander s'il pouvait espérer que ses vœux seraient accueillis. « Oh, par ma fille et par moi, n'en doutez pas, » répondit la mère. « Mais, monsieur Jujubes, pensez-vous que lui aussi... Ah, avec mon mari, ce sera plus difficile. Mais d'ici le jour où votre portrait sera terminé, Nous avons du temps. Quant à présent, ne lui dites pas un mot de vos intentions. Laissez-moi faire et bornez-vous à gagner ses bonnes grâces. Il est très accessible à la flatterie. Ne craignez pas de le flatter. Qu'il vous prenne en affection, cela rendra ma tâche plus facile. Soyez tranquille, madame, je vais lui en donner de l'encensoir. Et le bon pistache parti, plein d'espoir. Madame Jujube courut retrouver Athalie. Eh bien, dit-elle, il s'est déclaré, il ne veut que toi, sans un sou de dot. Enfin, s'écria Athalie avec joie, en voilà donc un. Puis avec crainte, mais c'est papa maintenant. Oh, ne t'inquiète pas, ma fille, nous arriverons à le décider, laisse-moi faire.